Bonjour, vous connaissez peut-être le café liégeois, vous connaissez peut-être le chocolat liégeois. Je vous propose aujourd'hui de rencontrer la danse des mots liégeoise. C'est en effet à Liège que je me suis rendu il y a quelques jours, puisque pendant toute la semaine, dans cette ville de Belgique, s'est déroulé le Forum mondial de la langue française. Ce n'est pas le premier. Le premier a eu lieu il y a 3 ans au Québec. Le deuxième était donc en Belgique et il a réuni plus de 1500 participants qui venaient d'un petit peu partout en francophonie. Beaucoup venaient d'Afrique, beaucoup venaient d'Amérique du Nord et puis d'Europe. Et d'Europe de l'Est, parfois, il y avait des Roumains et des Roumaines, il y avait des Bulgares, il y avait même des Turcs, des gens qui s'intéressent au français, qui parlent le français et souvent qui enseignent le français. Pourquoi se retrouvent-ils dans ce forum? Pour se connaître, pour s'identifier, mais pour échanger aussi leurs expériences, par exemple sur l'enseignement du français, sur la didactique du français, mais aussi sur tout ce qu'on peut faire avec la langue française, sur toutes les façons ludiques de jouer en français ou de temps en temps de vivre, de faire du commerce, de s'enrichir, de rencontrer des gens qu'on aime ou qu'on aime moins grâce à la langue française. Donc, je suis parti à la recherche de ce qui pouvait s'y faire, s'y dire. J'ai arpenté les couloirs en entrant plus ou moins par hasard, dans des pièces où je voyais des gens qui échangeaient justement. Des gens, des Sénégalais par exemple, qui avaient écrit une pièce de théâtre. « Je suis sénégalois ». Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai poussé la porte et je me suis renseigné. « Je suis sénégalois », c'est le titre du projet que vous proposez tous les deux au Forum de la langue française. C'est une formule qu'on connaît bien si jamais on a été à Dakar, parce que de temps en temps, pas de temps en temps d'ailleurs, très souvent, quand on se promène à Dakar et qu'on est blanc, on se fait aborder par des gens qui vous disent, de façon d'ailleurs un peu réflexe et un peu répétitive, « Ah, tu es sénégalois, moi je suis sénégalais !» Et on rit la première fois, on rit d'ailleurs la deuxième. Pour vous, « Je suis sénégalois », qu'est-ce que ça représente?
Eh bien, « Je suis sénégalois », pour nous, c'est une façon de mettre en exergue un peu, disons, cette relation qui existe entre nous en tant que Sénégalais, mais partageant un peu, disons, la culture française, disons, à travers la langue française. Et voilà, donc c'est ça pour nous qui symbolise un peu, disons, cette langue. Mais de l'autre côté, pour peut-être vous, en tout cas dans nous, notre pièce, oui, vous en tant que Français, mais qui partagez par moment aussi un peu, disons, cette réalité sénégalaise, disons, cette réalité francophone.
Alors, vous parlez d'une pièce. Pourquoi une pièce? Une pièce de théâtre?
Voilà, c'est une pièce de théâtre à la base, dont le titre c'est « Je suis sénégalois ». Pour montrer un peu, disons, cette réalité, comme je le disais tantôt, existant entre les Africains francophones, voilà, d'une part, et d'autre part, un peu, disons, les Français. Quand je dis les Français, ça peut être vaste, hein. Ça peut être la France, ça peut être le Québec, ça peut être la Suisse.
Les francophones, disons.
Les francophones de façon globale.
Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez écrite, cette pièce?
Voilà. Effectivement, c'est une pièce que j'ai écrite. Voilà.
Donc, c'est vous, Djibril Goudiaby, voilà, qui avez écrit cette pièce.
Voilà, je suis Djibril Goudiaby, d'abord metteur en scène, mais aussi comédien, un peu, disons, qui interprète, un peu, disons, cette pièce. Et je suis aussi co-auteur, parce que je l'ai co-écrite avec une Française du nom de Marie-Hélène. D'où, encore une fois, l'importance de faire ressortir, moi, de mon côté, les réalités francophones sénégalaises. Elle, de l'autre côté, ces réalités françaises de la France.
Donc, et en quelle langue est-ce qu'elle est écrite? Est-ce qu'elle est écrite dans un français qui déborderait les frontières de la France? Ou bien est-ce qu'il y a des mots Wolof? Est-ce qu'il y a des mots d'autres langues africaines?
C'est du français. Du français, je dirais, dans un premier temps, sénégalais. Du français sénégalais, mais aussi ça peut être du français ivoirien. Du français ivoirien, ça peut être aussi du français congolais, du français camerounais, mais aussi ça peut être du français québécois. Parce que en créant ce spectacle, en écrivant cette pièce, nous nous sommes inspirés un peu, disons, de cette comme tradition francophone, quand je dis francophone, mais de façon globale, je veux dire, pour, comment dirais-je, inventer, créer un peu, disons, une pièce francophone.
Voilà. Alors, peut-être qu'on pourrait en entendre un petit extrait.
Voilà, donc.
Soit vous tout seul, soit avec votre camarade qui est Boubou Ahmed Diakaté.
Mm-hmm. Voilà, juste pour vous dire les réalités culturelles qu'on retrouve à travers la langue française qu'on communique, juste pour l'expression là.
Poisson vit dans l'eau. Mais on peut le noyer.
Cela veut dire, Boubou, malin, malin et demi.
C'est pas beau ça. Et je vais te montrer qui a mis de l'eau dans Coco.
Tu verras de quel bois je me chauffe.
Ah mais c'est pas beau ça. Si tu te comportes.
Alors attendez, je vous interromps juste. Oui. Tu vas voir qui a mis de l'eau dans Coco. Ça veut dire un malin, malin et demi.
Vous.
Non.
Ça veut dire quoi?
Je vais te montrer qui a mis de l'eau dans Coco.
Et ça, qu'est-ce que ça veut dire?
Tu verras de quel bois je me chauffe.
Ah, et de l'eau dans Coco. Qu'est-ce que c'est?
Le coco, un coco. Le cocotier, noix de coco. Voilà, donc voilà. Ce sont des expressions, disons, ivoiriennes, quoi. Mais du français ivoirien. Voilà. Ensuite, si tu te comportes comme crabe, tu seras mangé avec bruit.
Ben, tu subiras les conséquences de tes actes. Parce que, tu vois, quand on croque quelque chose, ça fait des croques. Donc, c'est. Voilà.
Et voilà. Si tu vois un serpent sur une bicyclette, c'est qu'il a trouvé les moyens de pédaler.
Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Voilà.
Eh bien, autre expression qui me semble quand même intéressante. Même si le panthère a maigri, on ne peut pas l'appeler chat.
Et ça veut dire qu'il faut respecter ses aînés. Voilà. Donc, voilà. C'est des expressions comme ça qu'on retrouve dans toutes nos langues, mais en français. Tous les proverbes africains, comme on dit, c'est trop imagé. Donc, et on les traduit comme ça en français.
J'aime bien celui du serpent à bicyclette.
Voilà. En fait, on fait un tour dans le monde francophone, en quelque sorte, pour faire ressortir un peu, disons, ces expressions que les gens utilisent dans leur quotidien, qui sont des expressions, encore une fois, on peut le considérer comme étant pas de français de France, mais des expressions du français francophone. Au Mali. Un garçon ou une fille peut vous taper dans l'œil. Enfin, juste pour dire, peut tomber amoureux. Un garçon peut tomber amoureux.
Même en France, il y a un garçon ou une fille qui peut vous taper dans l'œil.
Ah voilà, on te cogne dans l'œil comme un peu à la boxe, quoi. À Yaoundé, on dirait, mademoiselle, je glisse pour toi.
Je glisse pour toi?
Oui, je glisse pour toi. C'est pas beau ça? C'est dans l'Académie sénégaloise, encore une fois. À Bamako, vous murmurez à son oreille, mademoiselle, je suis amoureux. À Ouagadougou, je suis chaoté. À Kinshasa, cette fille m'a mis sens dessus-dessous. À Abidjan, quand un garçon veut complimenter une fille, il lui dit, Bélesse, tu mangeais trop. En fait, voilà un peu, disons, l'univers dans lequel nous naviguons, ou disons, dans lequel je suis sénégalois, navigue.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux, Djibril Goudiaby, et merci Boubou Ahmed Diakaté.
J'ai fait du pouce. J'ai fait du pouce de Saint-Augustin de Woburn à Sept-Îles. J'ai fait du pouce de Gatineau à Trois-Pistoles, de Saint-Félicien à la Guadeloupe, d'Upton à Mont-Tremblant. J'ai parcouru plusieurs régions du Québec avec un poème dans mon sac à dos que j'ai lu à des dizaines de chauffeurs. Je souhaitais confronter mon texte à la diversité, ouvrir la porte à cette capacité universelle d'appropriation des métaphores, vivre la poésie comme un art simplement accessible.
Merci beaucoup Marie-Claude de Souza. Donc vous êtes ici à Liège pour proposer un atelier autour de l'art sonore et de l'autostop. L'autostop, c'est ce qu'on appelle au Québec faire du pouce, c'est ça?
Exactement, donc expression un peu exotique.
Alors racontez-nous un petit peu ce que vous êtes venu présenter ici.
En fait, c'est un spectacle littéraire qui voyage déjà au Québec. Alors, il y a des lectures de poésie et de récits sur mon voyage en autostop. Et puis, l'art sonore, en fait, est diffusé utilisés à partir de petits radioémetteurs pour reproduire un peu l'ambiance des voitures. Des fois, on capte tout et des fois, pas tout. Et les gens peuvent manipuler les radios et créer cette ambiance-là.
Donc, ça s'est basé sur une expérience réelle que vous avez faite.
Exactement. C'est une performance poétique. Et dans le cadre du forum également, étant donné qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, l'idée, c'est de voir aussi les pratiques et d'échanger là-dessus, les pratiques culturelles, donc de l'art dans l'espace public et aussi le rapport aux nouvelles technologies.
Mm-hmm. Alors, pourquoi rapport aux nouvelles technologies?
Ben en fait, ça devient incontournable un petit peu partout. Il y a des moyens qui sont utilisés pour diffuser la culture ou en produire. Et il y a une question d'accessibilité de ces outils-là, des coûts de production, etc. Donc, de voir comment chacune des cultures peuvent s'y approprier et les utiliser.
Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes au bord d'une route, au Québec ou ailleurs, vous levez le pouce, il y a une voiture qui s'arrête. Après?
Voulez-vous que je vous lise un poème?
Donc, si le chauffeur ou la conductrice dit non, on s'arrête. Mais s'il dit oui, qu'est-ce qui se passe?
En fait, même s'il dit non, on monte et on fait connaissance. Et règle générale, dans 95% des cas, après une heure, parce qu'au Québec, il y a des distances de 10 heures de route là, pour se rendre dans certaines villes éloignées en région. Donc, on a le temps de faire connaissance et on a le temps de convaincre les gens de participer.
Donc, vous montez dans une voiture et vous dites un poème.
Exactement, le même poème, assez court. Oui. Et le but, c'est de capter les interprétations différentes selon les régions, capter les accents et les perceptions autour de...
Parce qu'après, vous faites dire le poème au conducteur?
Pas forcément, mais il s'exprime sur le contenu. Donc, ça permet aussi de voir...
Il dit si ça lui a plu.
Oui, mais aussi qu'est-ce qu'il a compris du texte et comment il le perçoit.
Et ça peut être très différent d'un chauffeur à l'autre. Je dis chauffeur parce qu'au Québec, souvent, on parle de chauffeur.
Oui. Effectivement, donc, il n'y a pas une personne qui a perçu les choses de la même façon, mais ça démontre aussi l'universalité de la poésie.
Donc, ça tente à démocratiser cette poésie, d'une certaine façon, et en même temps, à améliorer la communication entre des inconnus, des gens qui font connaissance un peu par hasard.
Exactement. Ben en fait, c'est ce qui m'intéressait dans la pratique de l'autostop. Et en plus, c'est les gens qui venaient me choisir. Donc, il y avait quelque chose de très différent que si j'étais au coin de la rue et que j'allais aborder les gens. Parce que dans mon inconscient, déjà, j'ai des filtres qui vont faire en sorte que je vais aborder quelqu'un ou non. Donc, cet aspect-là m'intéressait énormément.
C'est pas vous qui abordez, c'est vous qui êtes abordé.
Exactement. Et les gens sont en contrôle, ils sont derrière leur volant, ils sont dans leur espace privé également. Donc, ça change le rapport de force.
Et qu'est-ce que vous êtes venu proposer ici à Liège?
Donc, des extraits de la lecture, mais mon but, c'était de voir aussi l'adaptabilité du projet dans d'autres cultures et de voir comment l'art dans l'espace public est perçu et vu et vécu dans les autres cultures.
On peut faire peut-être une expérience avec certaines des personnes qui sont venues ici dans votre atelier pour voir ce qu'elles ont compris et comment elles ont perçu ce que vous proposiez.
Tout à fait.
Allons-y.
Bonjour, bienvenue dans notre voiture. Nous, on est des voyageurs et on parcourt les routes. Et on sait que, en tout cas, au Québec, on peut faire de l'autostop. En France, ça existe aussi, mais au Liban, à part dans les petites routes de montagne, ou parce qu'on n'a pas les moyens, ou parce qu'il n'y a pas de transport, bah oui, on fait du stop. Mais sinon, ça ne se fait pas. À Beyrouth, par contre, il y a des véhicules qui sont mutualisés par plusieurs personnes et on paye 1 euro. Même si on fait 5 minutes ou une demi-heure de route, on paye 1 euro et comme ça, on trouve ça bien. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et sinon, on pense que c'est pas facile de donner envie aux gens qui ont jamais été dans le milieu artistique. C'est pas facile de leur donner envie de venir avec nous s'aventurer dans du théâtre, de l'art, plastique, et de se raconter. Et on pense qu'il faut leur donner envie comme leur parler d'un beau gâteau, en fait. Mmh. Et de leur dire que ce sera ni bien ni mal, mais que ce sera eux et que du coup, ce sera forcément bien.
Alors, prochaine destination.
auditeurs, c'est Raphaël Van den Putten. Bonjour. Vous avez animé, donc, dans le cadre de ce forum sur la langue française, un atelier qui s'appelle Intime Conviction. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, intime conviction? De quoi est-ce que ça parle, tout ça, Céline Peters?
Alors, justement, il faut en faire l'expérience pour le savoir. Mais donc, notre atelier consistait à faire une simulation d'un huis clos. Donc, après un procès d'assises, les jurés se rassemblent pour délibérer autour d'une affaire criminelle et doivent prendre une décision sur base de leur intime conviction.
Alors, le huis clos ne concerne pas uniquement les jurés, parce que quand les jurés se réunissent, forcément qu'il n'y a personne. Le huis clos, c'est quand il n'y a personne pendant toute la durée du procès.
Voilà, alors c'est vraiment spécifique. Donc pour notre jeu, c'est vraiment le moment où les jurés sont juste entre eux. Hein, c'est après, on est sorti du tribunal et on se retrouve dans cette salle où on délibère et on prend la décision.
Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait inventer une affaire criminelle par les gens qui participaient à cette réunion?
Alors non, donc on leur soumet une affaire criminelle.
Soumettez-la.
Il y a eu un crime, on retrouve une femme dans son appartement qui est blessée, ça semble bien être une scène de crime, un aquarium est brisé, on voit qu'il y a une scène de lutte, et on a une accusée qui fait une première déclaration qui dit, ben voilà, il y a un cambrioleur qui a sans doute dû venir, puis on se rend compte, les policiers la confrontent, on voit bien que c'est pas possible, et qui avoue, oui c'est moi. Toute la question est de savoir s'il y a eu une volonté de tuer ou si c'est un accident, une scène passionnelle. Donc c'est vraiment là-dessus que les jurés vont délibérer.
Et alors qu'est-ce que vous faites avec les gens qui participent donc à cette manifestation? Chacun prend un rôle. Il y en a un qui joue l'inspecteur, non c'est pas ça?
En fait c'est pas vraiment un jeu de rôle, c'est vraiment un simulateur dans le sens où cette expérience inédite vous permet juste... C'est comme si vous étiez convoqué en tant que juré pour juger une affaire criminelle. Donc vous jouez votre propre rôle et vous éprouvez... votre façon de penser, votre intime conviction, donc c'est vraiment vous-même. Vous ne jouez pas un rôle, on va dire. Voilà.
Et après, vous discutez pour savoir si l'accusé est coupable et s'il mérite d'être condamné?
Exactement. Mais en fait, le but vraiment de l'exercice, c'est pas de faire l'enquête, hein, c'est d'évaluer les preuves, de ressentir, c'est ça son intime conviction, et de délibérer ensemble pour échanger des idées et prendre une décision qui semble la plus rationnelle possible en gérant à la fois les émotions et puis des preuves rationnelles, quoi.
Donc ça vous aide à la fois à gérer un argumentaire, à savoir ce que vous pensez, ou à le découvrir, et à convaincre les autres?
Pas forcément à convaincre les autres, ça dépend. Il y a des jurés qui ont leur opinion et qui ne sentent pas, qui ont le besoin de convaincre les autres. Notre but vraiment, c'est que chacun ressente sa conviction. On discute, parce que c'est avec l'échange d'arguments qu'on on va se forger sa conviction. Après, il n'y a pas... l'exercice principal n'est pas vraiment dans l'argumentation, c'est vraiment dans le sentiment et la prise de décision. On s'exerce à prendre une décision soi-même d'abord, et puis en groupe, et on rend le verdict.
Et alors là, vous venez de terminer cet atelier autour de l'intime conviction. Est-ce que votre accusé a été innocenté ou condamné?
Alors l'accusé a été innocenté. On avait 9 jurés et donc on a eu 7 voix non coupables et 2 voix coupables.
Yves Biaou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici à Liège, comme tous les autres, au Forum mondial de la langue française. Qu'est-ce que vous êtes venu apporter?
Je suis venu parler de mon projet Louliaf, l'ouvrage de la littérature africaine.
Louliaf.
Oui, Louliaf, un peu inspiré de Loulipo.
Alors, dites-nous un petit peu, en quelques mots, ce que c'est que Loulipo.
Alors l'Oulipo, c'est l'ouvrage de la littérature potentielle. C'est un groupe créé en 1960 par François Le Lyonnais et Raymond Queneau, un groupe qui fait de la littérature expérimentale, qui font c'est un ouvroir où on se fixe des contraintes d'écriture, on s'amuse un peu avec la langue française. C'est de la littérature expérimentale, en fait.
Et de la littérature avec contraintes, avec des injonctions. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il y a donc des choses qu'on vous demande de faire et des choses qu'on vous interdit de faire dans la production des textes. Et vous, par rapport à ça, donc Yves Biaou, qu'est-ce que vous proposez ?
Alors, ce que nous on propose, c'est de pouvoir rapporter un peu cette manière-là de faire dans le contexte africain. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, parce que l'Afrique a ses us et ses coutumes, il faudra essayer, et ses langues également, il faudra essayer de faire une sorte de brassage entre nos langues nationales et la langue française. Donc, en se fixant des contraintes d'écriture relevant des réalités africaines.
Vous êtes de quelle origine, vous ?
Je suis béninois.
Et alors, donnez-nous quelques exemples de ces contraintes à l'africaine.
À l'africaine. Alors, au niveau de l'Ouliaf, puisque c'est un ouvrage un peu comme l'Oulipo, on essaye de faire une sorte de recherche expérimentale, un peu comme l'Oulipo également. Donc, du coup, on a créé plusieurs contraintes d'écriture, un peu comme le Verliaf. Le Verliaf, par exemple, c'est une contrainte qui permet d'écrire un poème. Vous écrivez un poème, par exemple, dont le premier vers est en français, et sa traduction, et ça, enfin, le deuxième vers qui suit est une traduction en langue nationale. Donc du coup, on a un poème jonché de langue nationale, de vers en langue nationale.
Et le troisième vers sera en quelle langue ?
Le troisième vers sera également en français, et ainsi de suite.
Et le quatrième, dans la même langue nationale ou dans une autre ?
Non, dans la même langue nationale. Et de sorte que si on enlève en fait les parties en langue nationale, on pourra trouver un poème en français correct, et on pourra également avoir un poème en langue nationale correct.
Ah, donc il faut que les vers soit en quinconce, voilà, et qu'ils aient une suite logique, le vers 1, 3, 5, 7, 9, par exemple en français, et 2, 4, 6, 8, 10 en, je sais pas, dans une langue en fond, par exemple.
Voilà, exactement, en fond, exactement ça.
Vous pouvez pas nous donner un petit exemple, là ?
Oui, j'en ai un. C'est un poème. Le titre, c'est Quelque part. Voilà, ça fait. Quelque part sur cette terre, Nibikinilei, un homme a pris les armes contre son frère. On a Kangbeibon, Léry, et Niké dirait, quelque part sur cette terre, Nibikinilei, un homme a pris les armes pour son frère. On est Kangbe Ibon, Fun, Orioré. Quelque part dans ce monde immonde, Nibikinilei, Iberoui, les enfants meurent de faim. Nibikin, en mon cou, quelque part dans ce monde, Nibikinilei, les hommes font des pieds et des mains. Donc c'est des exemples comme ça qu'on fait, qu'on appelle le Verliaf. Il y a également...
Alors une petite question, moi qui ne parle pas Yoruba, j'en suis désolé. Est-ce que les parties en Yoruba étaient des traductions des parties en français, ou bien c'était tout autre chose ?
Exactement, c'est des traductions des parties en français, et nous avons une technique spéciale pour pouvoir faire des traductions des poèmes et des proverbes en langue nationale en français, parce qu'on ne peut pas faire une traduction littérale, ça sera difficile, on ne pourra pas comprendre. Donc la technique, elle est dite, c'est une technique, c'est un sigle, je vais vous donner, CIM. C'est une technique que nous avons inventée pour pouvoir traduire le français en langue nationale et vice-versa. Donc, c'est CIM, ça fait contexte plus idée plus mot. C'est-à-dire, pour pouvoir traduire un texte en langue nationale en français, il faudra voir dans le contexte dans lequel ça a été dit, et voir l'idée que la personne veut dire, parce que l'Afrique a ses us et ses coutumes qui sont carrément différents de la culture occidentale. Et donc, pour faire une traduction, il faut voir dans le contexte dans lequel ça a été dit, l'idée et plus les mots utilisés. Parce que si vous voulez utiliser seulement les mots, ça sera une traduction plate, littérale, qui n'a pas de sens. Voilà.
Alors, peut-être, Yves, un autre exemple de ces contraintes de l'Oulipo qui sont adaptées aux réalités africaines.
Voilà. Il y a l'union dialectique. L'union dialectique que nous avons inventée également. Il s'agit d'écrire simplement un texte ou un poème en mettant un adjectif ou un verbe conjugué ou un nom en langue nationale. C'est-à-dire, j'écris un vers en français et je prends le plaisir ou la largesse de mettre tous les adjectifs, par exemple, dans ma langue nationale.
Voilà. Alors, allez-y, donnez-nous un exemple. Voilà. Qu'est-ce que c'est, votre langue maternelle ? C'est le Yoruba, c'est le fond ?
C'est le Yoruba.
Alors, comment on dit, par exemple, l'aube en Yoruba ?
L'aube, on dit l'art.
L'art. Donc, je peux dire, demain, dès l'art, à l'heure où blanchit la campagne, etc.
Vous avez tout compris.
Et alors, comment on dit la campagne ?
La campagne, ou bien.
Demain, dès l'art, À l'heure où blanchit Loubet.
Voilà.
Alors à vous maintenant.
Alors pour l'union dialectique, j'ai ici un poème qui est plutôt La Vie, que j'ai baptisé La Vie. Et je vais vous dire le poème en version originale. En version originale, ça fait « L'homme est à l'image de la vie, il engendre l'injustice et la vie. La vie est entre guillemets, il faut l'amener en secret. » C'est ça le poème à la version originale. Donc quand on applique l'union dialectique, ça fait « L'homme », j'ai utilisé rien que les verbes conjugués pour pouvoir le faire, ça fait « L'homme, moi, à l'image de la vie, il mara l'injustice et la vie. La vie, moi, entre guillemets, m'ouéné l'amener en secret. »
C'est avec ces mots que nous allons prendre congé du forum, le deuxième forum mondial de la langue française qui se déroulait pendant toute la semaine à Liège et auquel la danse des mots assistait. Un forum qui s'est tenu d'ailleurs grâce à l'Organisation internationale de la francophonie et à certains de ses opérateurs. Merci bien d'avoir écouté donc la danse des mots qui est une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI. Véronique Durand, Lucie Bouplou, Yvan Amard.